Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture. Et aujourd'hui, les métiers du livre, le métier d'éditeur. Voilà, alors une rencontre que nous avons fait récemment à la Maison pour tous Chopin avec un éditeur local, les éditions Yovana et Julien Poujol. Yovana, mais c'est quoi exactement les éditions Yovana ?
Alors, les éditions Yovana sont une maison qui est centrée autour de la notion de voyage. Donc, on publie des romans de voyage, des récits de voyage dans un sens assez large. Ce que nous souhaitons avant tout à travers nos publications, c'est provoquer un dépaysement, une ouverture des horizons chez le lecteur, que ce soit par le biais de la découverte d'une culture ou d'un pays. Et évidemment, nous gardons le cap sur une certaine exigence littéraire. Nous souhaitons avant tout proposer des plumes de véritables écrivains et non pas de voyageurs.
Voilà, les éditions Yovana, alors c'est quelque chose qui a commencé avec un premier titre. Et ton absence se fera chère. De quoi s'agissait-il ?
On peut notamment dire que même s'il s'agissait du premier ouvrage des éditions Yovana, il a toujours une certaine actualité, dans la mesure où on a eu la chance d'être invité par la région Occitanie au Salon du Livre de Casablanca la semaine dernière pour présenter cet ouvrage à l'Institut français de Casablanca. Donc c'est vrai que c'est un ouvrage qui fait toujours réagir et c'est vraiment plaisant de constater qu'il laisse toujours une trace. Donc « Et ton absence se fera chère » est un roman témoignage assez politique, dans le sens où Siam Boulal, l'auteur, qui est une poétesse initialement, rend hommage à son compagnon défunt qui s'appelait Driss Benzekri, qui était une personnalité marquante de la vie politique marocaine, dans la mesure où il a été emprisonné pendant 17 ans pour avoir présidé une association marxiste-léniniste et qu'ensuite il a décidé de pardonner et qu'il il a fait en sorte de pacifier ce pays. Donc c'est un roman assez politique qui retrace le combat de son compagnon et qui lui rend hommage et qui en profite également pour faire une sorte d'état des lieux de la société marocaine et de la vie des femmes également dans cette société-là. Voilà.
Très beau roman pour ceux qui ne l'ont pas lu, que je conseille fortement. Alors, La solitude du Quetzal.
La solitude qui est si rare. Du Quetzal, notre second ouvrage paru en mai 2016, qui est un petit peu l'ouvrage qui permet véritablement d'identifier la maison d'édition, dans la mesure où il s'agit d'une fiction qui se passe au Guatemala. Le narrateur va essayer de, entre guillemets, se dépayser de manière assez classique en partant au Guatemala, mais il n'y parvient pas. Et au final, il nous propose un ouvrage assez caustique sur son incapacité à être un touriste exemplaire. Et ça en devient beaucoup plus intéressant, bien sûr, qu'un récit de voyage classique, puisque il décide finalement de faire un voyage plus littéraire que géographique. Il a emmené un ouvrage de Henri Michaud dans sa poche qui s'appelle Ecuador. Et il va s'amuser à discuter à travers les siècles avec Henri Michaud, à mettre en parallèle leurs expériences de voyageurs plus ou moins satisfaits. Bien sûr, il y a autour de cela une plaie, une blessure amoureuse qu'il va essayer de refermer par le biais du voyage et on verra s'il y arrive ou pas à la fin du roman.
Ensuite, alors, un plus petit livre, Christine Gillet, Empreinte, sur les traces du trophée Rose des Sables.
Oui, alors comme pour Jacques Sirard, on reste dans notre collection Voyage. Et donc Christine Gillet, c'est une franco-canadienne qui a réalisé le trophée Rose des Sables en tandem avec une collègue. Et donc c'est un carnet de route qui nous fait découvrir la beauté du Sahara par le biais notamment de petits haïkus.
D'accord. Alors là, on a un Indien en couverture, Celui qui doute, Emmanuel Bessot.
Celui qui doute, un roman initiatique où l'on suit un jeune personnage qui est un petit peu tiraillé entre son identité américaine et son identité amérindienne. Il va revenir aux pures traditions des Lakota, donc c'est l'autre nom des Sioux, pour entrer véritablement dans sa vie d'adulte et essayer de se définir, on va dire.
Alors, un roman dont nous avons la traductrice à nos côtés, « Mécanique d'un homme heureux » de Dario Jaramillo Agudelo.
Oui, on est très fiers de ce projet qui est une traduction d'un auteur colombien qui est notamment renommé pour sa poésie, mais dont on a donc publié un roman. C'est la première fois qu'il est traduit en France. C'est un roman très caustique. Il faut beaucoup de second degré, troisième degré peut-être même, puisqu'il s'agit d'un homme qui avoue avoir assassiné sa femme de manière assez douce. Et on rentre dans la psyché d'un personnage qui nous met un peu mal à l'aise, mais qui en même temps nous fait rire et nous déplace en quelque sorte. Et donc c'est une belle œuvre littéraire.
Alors après, c'est l'Afrique, Bamakola, Marie-Laure de Noret d'Ardenne.
Oui, retour en Afrique, effectivement, avec Bamakola. On peut aussi parler d'un roman initiatique, en quelque sorte. On va suivre une jeune narratrice qui est envoyée au Mali par un professeur malien parisien et qui a pour objectif et pour mission d'écrire sur les différentes communautés, les différents quartiers de la ville. Alors vraiment, c'est un roman de flânerie en quelque sorte autour de cette ville très, très multiple. Donc on y voyage énormément.
Après Jackie et Sirard, donc deuxième volume que vous publiez de lui,
oui.
Été 70.
Mm-hmm. Été 70, c'est un roman plus nostalgique. Alors Jackie et Sirard nous avait beaucoup plu avec sa plume à la fois distanciée, ironique, drôle et puis un petit peu nostalgique. Et là, vraiment, on a donc un roman dans lequel il s'est inspiré de sa propre expérience. On retourne dans les années 70, aux Pays-Bas, à l'occasion de son premier voyage initiatique, on va dire, qu'il a fait en deux chevaux jusqu'à Amsterdam. Et à l'issue duquel il y a eu, on va dire, une déception amoureuse, tout simplement, sur laquelle il a le sentiment de devoir revenir pour démêler quelque chose dans sa vie. Donc c'est à la fois un voyage temporel et géographique.
Et puis le dernier paru qui nous emmène en Indonésie, Hélène Honora, N'oublie pas Irma.
Mmh. Oui, on est très content d'aller enfin en Indonésie grâce à Hélène Honora, auteure montpelliéraine d'ailleurs, que vous avez accueillie il n'y a pas longtemps. Donc N'oublie pas Irma, c'est notre premier polar. Bien sûr, c'est un polar de voyage en quelque sorte, puisqu'on y découvre vraiment la capitale indonésienne, Jakarta. C'est aussi un roman de flânerie où il y a pas mal de descriptions et on découvre vraiment une ville. Il y a également une tension narrative dans la mesure où Jakarta est une ville dans laquelle il y a différentes communautés qui ont du mal parfois à coexister ensemble, notamment des communautés religieuses. Et donc ce roman construit sa trame narrative autour de ces problématiques-là.
D'accord. Alors, on a eu le luxe de pouvoir présenter l'intégralité des volumes publiés. Avec d'autres éditeurs, ce serait un petit peu plus compliqué. Alors, l'aventure, elle n'a pas commencé il y a si longtemps. C'est 2015, je crois, le premier volume paru. Qu'est-ce qui vous a amené, en plus vous étiez à Bagnols-sur-Cèze à l'époque, qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer dans ce projet alors que partout on nous parle de crise de l'édition, du livre papier qui va être enterré, et non, vous dans une ville reculée du Gard, vous décidez d'éditer des livres sur un support papier.
Oui, il y avait un petit peu d'inconscience à l'époque, mais vraiment, je suis... Je suis assez ému de reparler maintenant de la maison d'édition avec vous 3 ans après, parce que on voit que ces projets-là, ils restent viables malgré tout. Alors dans un certain contexte, on est dans un pays où on peut être soutenu lorsqu'on a un projet culturel qui tient la route, qui est viable et qui a de l'ambition. Et c'est notre cas. C'est vrai que moi, je pense qu'il y a toujours la place pour la création de nouvelles maisons d'édition. Tant qu'on a un projet bien concret, on a une ligne éditoriale bien identifiable, tant qu'on fait travailler des personnes qui sont talentueuses, que ce soit à la fois des auteurs, des graphistes, des maquettistes, etc., tant qu'on est professionnel, les libraires nous suivent et avec entrain, souvent. Ils sont satisfaits de voir qu'il y a de nouvelles maisons qui se créent, qui sont audacieuses dans ce qu'elles proposent. Et voilà, il y a beaucoup de libraires encore en France qui laissent leur chance aux petits éditeurs et à la diversité des livres qui peuvent être publiés.
Oui, vous évoquez les graphistes. Alors effectivement, à la radio, ça ne se voit pas, mais il y a un vrai travail sur la maquette des livres. Hein. Alors, en même temps, je trouve qu'il y a un style qui s'affirme comme le style Iovanna, on pourrait dire. Hein. Comment vous travaillez avec les graphistes ? C'est toujours les mêmes ou c'est vous changez ?
On en a un par collection.
Oui.
Donc on essaie de faire les choses de manière assez simple. Et chacun d'eux, effectivement, en discussion avec nous et avec nos souhaits, nous ont proposé des maquettes pour chacune de nos deux collections. Et c'est vrai que cela joue beaucoup dans le succès de la maison. Et souvent, on nous explique que nos livres se reconnaissent facilement en librairie. Donc c'est vrai que pour nous, c'est un partenariat avec les graphistes qui est très important, oui.
Alors, on a beaucoup de littérature française, on a entendu, mais aussi, vous êtes lancé dans la traduction. Alors, ça semble encore plus audacieux, on va dire.
Voilà, c'est ça. Mais au final, le fait de monter une maison d'édition est audacieux. Donc, on se dit,
vous quand êtes on plus est à une audace projet-là, près.
Exactement. Autant le faire jusqu'au bout. Parce que l'intérêt, effectivement, pour continuer peut-être un petit peu sur cette thématique de créer une maison d'édition, eh bien, c'est de faire ce qu'on aime, tout simplement. Et c'est d'avoir de la liberté, tout simplement. Et pour ma part, c'est vrai que j'avais une certaine appétence pour la littérature sud-américaine. Je trouvais qu'elle était un petit peu sous-représentée en librairie. On a eu la chance d'avoir un très beau projet grâce à Laurence Holvoet qui nous est parvenu entre les mains. On a eu une région, encore une fois, qui nous a soutenus sur ce projet-là. Donc, tous les voyants étaient au vert pour cette audace-là, que l'on va essayer de poursuivre, même si c'est vrai, il ne faut pas se le cacher, traduire des ouvrages, cela coûte cher, et cela implique d'être très, très rigoureux au niveau de son budget, mais on va essayer vraiment de continuer à développer cette collection-là et cette direction-là.
Alors, vous m'offrez une belle transition. Les projets des éditions Iovanna pour les prochains mois, c'est quoi ?
Alors, il y a un projet à venir très prochainement. Nous sommes très contents qu'il s'agisse à nouveau d'un auteur montpelliérain qui s'appelle Philippe Vinard. Alors, c'est la première fois peut-être qu'on va en parler officiellement de ce projet-là qui arrive bientôt, sûrement fin mars. On reste en Asie, comme avec Hélène Honora, on sera au Kampuchea, donc le Cambodge actuel. Et donc Philippe Vinard a vécu plus de deux ans d'ailleurs, 5 ans me semble-t-il, au Kampuchea dans les années 80, au moment où les Khmers rouges étaient partis du pouvoir, mais au moment malgré tout où le Kampuchea était loin d'être une démocratie, loin de là. Et donc il a beaucoup de choses à nous raconter. C'est un roman témoignage, un roman puzzle, encore une fois, qui nous permet de découvrir une société communiste dans toute son paradoxe, son absurdité, effectivement. Et vraiment, c'est un ouvrage très dense sur un pays et une époque qui sont un peu méconnus. Voilà pour le projet le plus proche. Ensuite, effectivement, comme je disais tout à l'heure, on continue de travailler étroitement avec des traducteurs qui nous proposent des projets qui nous amènent vers l'Amérique du Sud. On va essayer d'en concrétiser un dans les mois qui viennent, si tout va bien. Et que dire d'autre, si ce n'est que, effectivement, on continue aussi à essayer de fidéliser des auteurs chez Iovanna. Et Hélène Honora, qui a publié « N'oublie pas Irma », regorge de projets fort intéressants, et nous allons très certainement continuer à collaborer avec elle.
Bien. Oui, donc des projets de traduction, des nouveautés. Bien, écoutez, on vous souhaite plein de réussites dans tous ces projets. Alors, vous n'êtes pas resté à Bagnols-sur-Cèze, il me semble.
Oui.
Ça, c'est plus du projet maintenant, c'est une réalité.
Oui, nous sommes Héroletais maintenant.
Vous êtes Héroletais. Donc, avis aux animateurs de salons et autres, un nouvel éditeur à ne pas oublier dans vos listes.
Exactement. Hein,
les éditions Iovanna. Ça veut dire quoi, Iovanna?
Il n'y a pas de signification. Je suis en tout cas très content de faire travailler les méninges des lecteurs et des auditeurs par le biais de ce titre énigmatique, de ce nom énigmatique. On a voulu que ce soit court, que ce soit facile à retenir, que ce soit agréable à écouter, tout simplement. Et donc, on a atterri sur ce nom-là qui ne signifie rien de spécial, ni en français, ni dans quelque autre langue que ce soit.
Mais si, maintenant, ça signifie édition de qualité.
Merci.
Voilà.
Merci.
Merci, Julien Poujol. Merci. Et puis, quand vous aurez des nouveautés, notre micro reste ouvert pour en parler avec vous et avec les auteurs concernés, bien entendu. Merci.
Merci beaucoup.
C'était Julien Poujol des éditions Yovana. Voyez, comme je le disais dans l'entretien, c'est rare qu'on puisse présenter le catalogue intégral d'un éditeur. Eh bien là, c'est le cas. Voilà. Après ceci, une nouvelle rubrique. Première ligne. Première ligne, c'est quoi ? Ben, vous allez voir. C'est simplement les. Vous allez voir. Donc, vous allez entendre. C'est simplement les premières lignes d'un roman, d'un recueil de nouvelles. Le titre, l'auteur, un peu de lecture, no comment. Mackenzie Orsel, Maître Minuit. Je viens de me réveiller en sursaut, comme d'un cauchemar qui a trop duré. Pris d'assaut tous mes sens, j'ai l'impression de tomber. Je dois faire un effort pour remonter à la surface. Renouer avec le réel, mais mon esprit tourne à vide, à moitié conscient. J'essaye de bouger. Une douleur intense me saisit de la plante des pieds à la poitrine, d'un des milliers de piqûres d'abeilles. Au fur et à mesure, je découvre ce qui m'entoure. Je suis à l'hôpital général. La chambre est étroite. Ça chlingue, il fait chaud. Mes vêtements sont trempés. Les écoulements de sang ne sont pas tout à fait empêchés par les pansements. J'ai un bras sous perfusion, l'autre est menotté au fer du lit. Mes pieds dépassent. Des dizaines de corps sont affalés pêle-mêle sur des matelas crevés, sur des civières ou à même le sol crade, jonchés de chiffons sanguinolents et couverts de mouches. D'autres suivent. Ça déferle jour et nuit. Une marée humaine. On dirait que c'est tout le pays qui est frappé par une sale épidémie. Depuis des mois, des années, les médecins observent une grève manche longue. Ils ne veulent plus continuer à travailler de ce bordel. Tout manque. Des intrants pharmaceutiques, des lits, des tubes à oxygène, des seringues, des bistouris, etc. Le patient doit tout se procurer lui-même. Les services d'urgence et de maternité, entre autres, sont fermés. Des femmes accouchent dans les couloirs, même le ciment. J'entends les cris des nouveau-nés. Des gens crèvent, ce qui s'appelle crever, dans la honte la plus totale. Le liquide marron qui coule dans les caniveaux à l'entrée principale du bâtiment, c'est la sauce des corps en décomposition dans la morgue sans climatiseur. Sous la dictature, on disait « le dépotoir » pour parler de l'hôpital général. Aujourd'hui encore, ça reste un des endroits en Haïti où la mort a le plus de clients. « Un docteur arrive !» crie une voix depuis une autre salle. Il est grand, beau, dans une blouse impeccable, stéthoscope autour du cou, chaussures noires bien cirées. Une allure mêlant fierté et suffisance. Dieu lui-même descendu sur terre. Il se dépêche, on est sauvé. En entendant cela, les patients, hommes, femmes et enfants, se mettent tous à chouiner, implorer la miséricorde, pitié, on meurt ici. Mais arrêtez de pleurnicher, retentit une autre voix, ça sert à rien, il n'y a pas de médecin, on est le 1er avril, on vous a fait un canular. Certains patients trouvent ça marrant, pleurent de rire. D'autres, considérant ce qui vient de se passer comme un manque d'égard pour leur détresse, piquent une colère. Lessive d'un flot de jurements bien sentis, le petit con, le sans conscience, qui a fait ça, avant de regagner chacun sa solitude. Tout redevient plat, le temps s'enroule, moisi dans son jus et c'est répugnant. Sur le grabat à ma gauche, il y a un homme plâtré des deux jambes. De sa tête bandée, on ne voit que ses yeux pleins de colère et ses lèvres tremblantes. Les blessés étaient trop nombreux, disait-il. Le temps qu'on ait fini avec une urgence pour passer à une autre, c'était trop tard. Foutaise. Ils l'ont laissé mourir, ma femme. Ils l'ont tué. Qu'est-ce que je vais devenir ? Après un moment, elle se tourne vers moi. Vous connaissez Morne Tapion ? Je réponds bien sûr, cette satanée route où des jeans gloutons sera responsable de tous les accidents. Qui ne la connaît pas, n'en a pas au moins une fois entendu parler. Il était minuit tapant, m'explique-t-il, lorsqu'un cheval en costume trois pièces sortit Dieu sait d'où et se précipita dans leur camion. Lorsqu'il a repris connaissance, il était ici, et sa femme n'était plus là. Il se redresse sur une main, cet effort lui arrache un gémissement, une grimace de douleur pétrit son visage, puis s'assied contre le mur. C'est fou comme on crève dans ce pays, ajoute-t-il. Quel gâchis. Ces mots d'une étourdissante justesse résonnent en moi tel un million de tambours, déferlent des souvenirs, comme si tout à coup le mécanisme de la mémoire s'était remis en marche. Le jour s'était levé et m'était révélé le récit de mon existence. Un silence, le genre qu'on ne décrit pas. Mais pourquoi donc êtes-vous menotté au lit ? Il pose la question pile au moment où j'allais dissimuler mon poignet sous le drap. Un patient menotté, ça éveille la curiosité, c'est pas normal. Dans un hôpital, on attache ceux qui ont des démêlés avec la justice ou les fous dangereux. On a envie de savoir. En guise de réponse, je lui raconte toute l'histoire. Mackenzie Orcel, Maître Minuit, aux éditions Zulma. Éric Plamondon, Oyana. 8 mai 2018. Pour toi, Xavier. Je te dois un tas d'explications. Ça risque d'être long. J'essaie depuis plusieurs jours de trouver comment le faire. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé de ne pas te demander pardon. Ce que je te demande, c'est d'essayer d'au moins comprendre en dépit des raccourcis inévitables. Je pourrais te demander de me faire confiance, mais tu le fais déjà depuis 20 ans. Et comment te demander cela alors que je me prépare à t'expliquer que tant de choses étaient fausses. Pour que tu comprennes dans quel état d'esprit je me trouve, je n'ai pas jeté mes premiers brouillons. Je veux que tu saches mes tâtonnements, que tu saisisses par ces débuts avortés ce que cela me coûte. 5 mai 2018. Dire la vérité ou m'enfuir sans un mot parce que les remords se sont accumulés ? M'asseoir devant toi pour tout révéler ou prendre mes jambes à mon cou? Parce que je ne sais que faire, parce que je n'ai pas de réponse, j'ai décidé d'écrire. Je tourne autour depuis hier, pour ne pas dire depuis toujours. C'était déjà là quand nos chemins se sont croisés au Mexique, quand nous avons eu notre coup de foudre. C'était comme tu disais au début, tomber en amour. Tunnel. Les trois hommes se relaient toutes les heures dans les trois conduits pour creuser. Au fond du trou, Iban pense à la femme qu'il a aimée pour venir ici se battre pour la cause. La femme est enceinte. Elle accouchera avant la fin de l'année. Lui doit creuser. Il faut que le tunnel atteigne le milieu de la rue Claudio Coelho pour ensuite y entasser un maximum de dynamique, 2-3 mètres sous la chaussée. Les trois hommes procèdent avec la plus grande prudence. L'opération dure depuis des mois, mais on touche au but. On connaît l'emploi du temps du Premier ministre par cœur. Il emprunte cette rue chaque matin, après une visite à l'église San François di Borgia. Il commence toujours sa journée de travail par une prière. Le détonateur est connecté. Les trois hommes ont préparé leur fuite dans les moindres détails. Ils changeront de véhicule à mi-chemin pour semer d'éventuels poursuivants. C'est bientôt Noël. Mika, déguisé en électricien, tient le détonateur. Iban guette la rue, prêt à donner le signal. John, au volant de la Fiat, laisse tourner le moteur. La luxueuse Dodge Dart approche. Au moment où elle atteint la zone fatidique, Iban donne le signal. Mika active le détonateur et la force de l'explosion fait s'envoler vers le ciel le Premier ministre, son garde du corps et son chauffeur. Le souffle est si puissant que la voiture blindée est projetée à 30 mètres dans les airs au-dessus d'un immeuble et s'écrase dans la cour intérieure du couvent voisin. La poussière n'est pas encore retombée que John, Mika et Iban sont déjà loin. Carrero Blanco agonise. Le garde et le chauffeur sont morts. Au même moment, alors que Théa vient de réaliser l'attentat le plus spectaculaire de son histoire, une femme donne naissance à une petite fille. Nous sommes le 20 décembre 1973. Oyana vient de voir la lumière au bout du tunnel. Éric Plamondon, Oyana, chez Kidam Éditeur. Et l'agenda pour aller voir ce qui se passe chez nos libraires et vos libraires préférés. Alors, bien nous allons commencer par la librairie Fière de Lettres. Librairie Fière de Lettres, la librairie des alternatives durables. Un rue du Bras de Fer à Montpellier. Alors, le 26 février, s'il n'est pas trop tard, selon le jour où vous écoutez cette émission, eh bien, un coup de cœur sur les romans du Maghreb. Donc, il y aura une soirée le 26 février à partir de 18h45 où vous seront présentés 5 romans. Le Fou du Roi de Mehdi Binebin, c'est aux éditions Stock. Un Loup pour l'Homme de Brigitte Giraud, qui est publié chez Flammarion. Millennium Blues de Faiza Ghen, qui est publié chez Fayard. Marie Myriam Myriam, c'est le même prénom, de Hadid Jazouli, alors c'est un éditeur moins connu, Boîte de Pandore, et L'Amour Ardent de Yamen Manaï, un éditeur encore peu connu, Elizade. Et puis, librairie, alors ça c'est donc le 26 février, 18h45. La même librairie, ce sera le 8 mars, à l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes, Claire Dupé-Dupe présentera sa bande dessinée Canal Joe. Voilà, un éditeur peu connu de bande dessinée rue de l'Échiquier, le 8 mars à 18h45. La Géosphère, de son côté, la Géosphère, la librairie de voyage, nous propose une rencontre autour de la Colombie. Ça, ce sera le vendredi 22 à 19h30 au centre Lacordaire, parce qu'il y a beaucoup de monde déjà qui s'est annoncé comme intéressé, avec notamment la présentation d'un livre, Mi Balcón en Colombia. Un livre de photos de Jean Cornel Eder, publié à l'Échappée Belle, vendredi 22, 19h30. Pour les enfants, la librairie Nemo, samedi 23, 10h30, une séance bébé lecteur. Voilà, faites découvrir la littérature à vous tout petits. Et puis, les tout petits, bah, c'est aussi une soirée spécialement pour eux, proposé par la petite librairie à Sommières, la petite librairie 7 rue du Général Bruyère. Et le 23 février, à 20h30, la deuxième édition de Lecture en pyjama. Vous vous rappelez, ils avaient proposé ça lors de la nuit de la lecture. Ils ont fait une première lecture en pyjama. Pour les petits, vous pouvez venir avec votre pyjama et il y aura des lectures spécialement pour les enfants. La librairie Tapuscrit que nous avons reçue il y a peu de temps, le 22 février 18 à 20h, elle vous proposera des ateliers d'écriture de haïku. Alors si vous êtes, ça vous inspire, vous savez les haïkus c'est des poèmes japonais très courts. Alors, il y a une formalisation très précise et surtout une grande poésie. C'est vraiment, techniquement c'est pas simple à écrire. Donc si vous voulez vous initier à cela, rendez-vous à la librairie Tapuscrit le 22 à 18h. Et puis, il y a beaucoup de choses le 22. Une soirée consacrée à la retirade. 80 ans de la retirade, et oui, parce que à la fin de la guerre d'Espagne. Donc là, c'est la maison de la poésie Jean Joubert qui vous proposera cela. Donc c'est 78 rue du Piré à Montpellier. Ce sera à 19h avec un poète andalou, Antonio Orihuela, soirée Retirada. Et puis la même maison de la poésie, le 9 mars, à partir de 18h, vous proposera la soirée de lancement du Printemps des Poètes, pour lequel Lecture par tous vous concocte quelque chose. Voilà, c'était notre agenda. Merci de votre attention. On vous souhaite plein de belles lectures et on vous dit à très bientôt.
Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture.